C'est le dimanche 11 mai 2014. Il est 7h du matin et je continue mon fichier sur Saint-Louis. Je rappelle simplement que quand je fais une intrusion dans le passé sur la vie de quelqu'un, ce n'est pas la globalité de sa vie que je vois, ce sont des détails, des instants, des moments, juste le moment où cela se passe. Donc, en 20 minutes de fichier, je ne raconte pas toute la vie. Et simplement, je dis ce que je vois au moment où cela se passe, parce que cela reste dans l'espace, comme vous avez déjà pu, j'espère, lire sur tout le site. Donc, me voici tout de nouveau dans cette salle du trône, où Saint-Louis fait la révélation comme quoi il va faire sa croisade. Et quand je fais ce genre de fichier, je peux très bien me situer quelque part, et puis bien sûr, selon les moments d'intensité ou je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être lié à mon propre schéma intérieur, je peux très bien vouloir continuer sur la salle du trône, par exemple, et me retrouver à un autre moment de la vie de Saint-Louis. Donc pour l'instant, j'essaie de rester dans cette configuration de la salle où, dans laquelle Saint-Louis, accompagné de sa femme sur le trône aussi, et qu'il est en train d'expliquer à toute la noblesse de la cour qui vont devoir quitter leur femme, leur château, et aller se battre dans cette contrée lointaine et dangereuse. Donc, c'est vrai que quand la dernière fois, j'ai indiqué que les nobles, ils n'étaient pas du tout contents. Parce qu'en fait, Blanche Castille non plus, hein, parce que de toute façon, la France encore en ces temps-là, ce n'est pas des frontières, comment dire, délimitées définitivement. Ils ont toujours peur que un voisin... un duc ou un comte d'une autre province essaye de grappiller les territoires d'à côté, et donc voilà, se retrouver à ce que le royaume soit amputé de certaines provinces ou régions. C'est pour ça qu'il n'y a pas tellement longtemps que la France est consolidée en ses frontières qui ne sont pas encore définitives, puisque le comté de Nice... Les deux Savoie, on les a eus qu'à la fin du 18e, 19e. Quoi. Et donc, il y a cette foule qui, environ 70 à 80 personnes, qui 70, 72, et qui réagit, et qui murmure, et qui n'est pas très d'accord avec... le fait de quitter la France, mais Louis IX, c'est le fils aîné de Blanche de Castille, donc c'est lui qui a le droit de porter la couronne et de dire ce qu'il doit dire, quoi. Et c'est vraiment, en ce temps-là, la France, c'est un pays catholique, profondément. Et c'est Louis, avant qu'il soit nommé saint, c'était un homme très, très, très pieux. Un homme qui était à porter des vêtements, des calices, ces chasubles de lin, ça pique, ça fait mal, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Et donc, il va à la messe, il se prosterne, il fait des neuvaines, il fait des retraites, il fait tout ça, quoi, voilà. Et puis, il fait quand même la guerre, ça n'empêche pas. Et en ces temps-là, c'était pas de tout repos pour personne, hein. Il fallait lutter contre la barbarie était encore là, hein, même si commençait déjà depuis longtemps, existait l'amour courtois, les chevaliers, tout ça. Mais et donc la plus celle qui pourrait être dans cette salle sombre là, mon regard est attiré par la reine. Elle est lumineuse, cette femme, dans son coin. Elle est tellement droite, altière et fière que On a l'impression que le peu de lumière, il se met autour de son visage. Ça n'est pas une sainte. Bien sûr, elle est à la religion, comme son mari, puisque c'est un couple. Hein. Mais elle est calme, elle est sereine. Son mari a pris une décision et bien sûr, elle est inquiète, mais elle accepte, quoi. Voilà, même si ça lui fait peur, même si elle a terriblement peur pour ses enfants, elle donne toutes les apparences de la sérénité, du calme, même si Blanche de Castille est un peu plus loin dans la salle, est nerveuse et pas contente. Elle sent la volonté farouche et la certitude intérieure de son fils, et comme elle l'aime beaucoup, puisqu'elle aime beaucoup ses enfants, et puis c'est le roi, donc elle va obéir, quoi. Elle va recommencer à gouverner le royaume, puisqu'elle a déjà été régente, et c'est pas trop pour lui déplaire, on pourrait dire. Hein. Bon. Et il y a un noble là, qui a l'air d'avoir 40 ou 47 ans, qui a l'air bedonnant. Cet homme, il s'approche de la reine, il a l'habitude de travailler. Enfin voilà, c'est un de ses collaborateurs, il a déjà travaillé. Lui, il est extrêmement satisfait, lui, parce que il a déjà eu l'occasion de se remplir les poches en étant conseiller de la reine mère. Puisque maintenant c'est la reine mère Blanche. Et donc lui, il est extrêmement satisfait. Il est jovial, il se tient les côtes, il fait des grimaces à côté de Blanche de Castille pour lui montrer que voilà, c'est pas dramatique, ne nous en faisons pas, on y arrivera, on y est toujours arrivé, ma reine, ne vous inquiétez pas, et tout ça, quoi. Voilà. Mais il est jovial, mais bon, c'est quelqu'un d'intéressé. Voilà. Et lui, il est habillé avec un pourpoint à rayures, un gros tissu épais là, à rayures. Et il a des chausses là, des collants, et avec une sorte d'aumônière là qui est positionnée sur le côté légèrement, sur une cuisse là, et c'est richement brodé. On sent que cet homme est prospère, qu'il a beaucoup d'argent. Et il a un chapeau sur la tête qui est luxueux, quoi, voilà, mais qui a l'air d'être avec beaucoup de fourrure. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas trop en été. Donc, il est habillé, mais on dirait qu'il y a trois ou quatre superpositions autour du haut de sa carcasse, parce qu'il a quand même pas mal de graisse autour de ses épaules et du ventre. Et donc... Et comme en plus il a mis deux ou trois gros vêtements, il bouge à peine, quoi. Et il a un gros visage très rouge, et en train de rire, quoi. Voilà, il essaie d'animer ce petit moment difficile pour Blanche de Castille, qui bien sûr elle était au courant, elle savait que son fils, il en avait déjà parlé, déjà au moins une petite semaine, qui lui disait, une bonne dizaine de jours, qui lui avait dit que son intention c'était d'aller là-bas et de continuer les précédentes croisades pour essayer de gagner un peu plus sur la liberté du tombeau de Jésus. Voilà. Donc c'est dans les mœurs de ce temps-là, hein. Les gens sont tellement été excusés par la religion catholique qu'ils n'ont pas d'autre... Leur vie tourne autour de ça, quoi. Voilà, ils résistent à la mort, à la maladie, à la faim, mais ils sont confiés en dévotion. Et s'ils n'avaient pas ça, ce serait des temps très difficiles pour eux.